Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, nous avons le privilège de partager le repas du Seigneur, comme vous le savez. Et pour préparer nos cœurs à ce repas, je vous invite à vous reporter à Matthieu, chapitre 26. Il est normal que nous soyons dans ce passage le jour où nous venons au repas du Seigneur, car c'est un texte qui ne pourrait pas être plus à propos. C'est le passage même où notre Seigneur institue son repas. Nous nous pencherons là-dessus, puis nous participerons au repas, avec une nouvelle signification, suite à ce que nous avons partagé ensemble dans ce merveilleux passage du chapitre 26 de Matthieu. Maintenant, rappelez-vous que Matthieu est en train de nous préparer à la croix du Christ. Le chapitre 26 est consacré à la préparation de la croix. Nous avons discuté de la préparation que Dieu avait faite, de la préparation des chefs religieux, de la préparation de Marie, de la sœur de Marthe et de Lazare, qui avaient oint Jésus d'un parfum coûteux. Nous avons parlé de la préparation de Judas. Et maintenant, en commençant au verset 17, nous arrivons à la préparation du Seigneur lui-même, alors qu'il commence à se préparer à sa propre mort. L'établissement du repas implique la dernière Pâque. Cela implique un temps d'exhorter les disciples frêles. Il s'agit d'un temps de prière, d'intercession devant le Père dans le jardin de Gethsémané. Matthieu nous donne tous ces éléments dans le cadre de la préparation à la mort de Jésus-Christ, qui, bien sûr, constitue un point culminant de sa vie et de son ministère. Maintenant, nous avons commencé par regarder le verset 17, et du verset 17 à 25, nous voyons notre Seigneur vivre la Pâque finale, un acte essentiel que notre Seigneur prend avec ses disciples, alors qu'il se dirige vers la croix. Maintenant, pendant que nous regardons le texte au verset 17 à 25, pendant un bref moment, nous nous rappelons qu'il y a plusieurs ingrédients ou éléments dans ce texte qui nous indiquent la direction de cette dernière Pâque. Tout d'abord, l'horaire est fixé. Dans les versets 17 à 19, nous avons examiné en détail le temps et le cadre de cette dernière Pâque. Nous avons discuté de la raison pour laquelle Jésus devait rencontrer ses disciples. Nous avons discuté de ce qu'il ferait à la Pâque. Nous avons discuté de la situation et avons appris que c'était tard le jeudi, après le coucher du soleil. Le lendemain, il sera crucifié. Nous avons également discuté du fait qu'à cette époque de l'histoire d'Israël, la Pâque était célébrée à la fois le jeudi et le vendredi, car les coutumes de Galilée étaient différentes des coutumes de Judée. Le jeudi soir, le Seigneur célèbre ainsi le jour de la Pâque à Galilée, et le vendredi, un autre jour de la Pâque signifie que Jésus peut garder la Pâque un jour et mourir le jour suivant, lors de la Pâque. Et Dieu va arranger l'histoire, la tradition, les coutumes et les circonstances pour en faire une réalité. Et ainsi nous avons regardé notre Seigneur fixant le temps pour le repas de la Pâque, un repas qu'il devait célébrer, qu'il désirait vivement célébrer avec ses disciples, afin qu'il puisse avoir le temps de les instruire, de leur enseigner, pour leur donner la promesse de l'Esprit-Saint, pour instituer son nouveau festin mémorial, que nous connaissons en tant que repas du Seigneur, ou la communion, le temps de démasquer le traître. C'était un moment très important, et nous verrons dans quelques instants une autre et importante raison pour laquelle il fallait célébrer cette dernière Pâque. Nous avons donc examiné l'heure fixée. Commençons, ce matin, au verset 20. Le deuxième élément de cette dernière Pâque, après avoir fixé l'heure, c'est de partager le repas. Et Matthieu traite très brièvement cette Pâque. Au verset 20, il est dit, « Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12, pendant qu'ils mangeaient. » Et nous pouvons nous arrêter à ce point. C'est vraiment tout ce que Matthieu a à dire sur le repas lui-même, le repas de la Pâque, le repas pascal, comment l'appeler. Rappelez-vous maintenant, il est plus de 18 heures le jeudi soir. Christ sera capturé plus tard dans la nuit, amené à un procès simulé tôt le matin, crucifié, et il mourra vers 3 heures le vendredi après-midi. Donc, Ce n'est que quelques heures avant sa mort, et il mange le repas de la Pâque. Il fallait manger, vous vous souvenez, cette nuit-là. Il devait manger, avant minuit. Il ne devait rien rester pour le lendemain. Et ainsi, au moment où nous arrivons au verset 20, il est à table, avec ses disciples, se préparant à manger le repas. Notez qu'au verset 20, il est écrit « Il se mit à table ». C'est une note intéressante parce que, historiquement, si vous retournez à la Pâque dans l'Exode, vous vous souvenez que lorsque Dieu a mis en place la Pâque, il a dit qu'il fallait manger debout. Vous devez le manger avec vos reins, sains à la hâte. Vous devez manger le pain dans la main, avec votre personnel et avec vos chaussures, prêts à partir. Mais au fil des ans, la fête avait coutume d'être un festin plutôt long, et comme il ne s'éloignait plus du pays d'Égypte, comme lors de la première Pâque, la coutume avait été adoptée, où il s'allongeait autour de la table, car maintenant les repas de fête étaient plutôt tranquilles. Et ainsi, nous trouvons que Jésus s'adapte à cette coutume et n'a aucun problème avec cela. Il se mit à table alors avec les 12. Et le verset 21 dit, « Pendant qu'il mangeait, et cela ne fait que nous emmener au repas de la Pâque. Maintenant, il y avait une séquence très définie et inviable dans le repas de la Pâque. La tradition est très claire. La première chose qui s'est produite, c'était la première coupe de vin rouge mélangée à de l'eau. Et c'était leur coutume de toujours mélanger le vin avec de l'eau pour ne pas devenir ivre. Et nous savons qu'à la Pâque, ils mélangeaient le vin avec une double quantité d'eau, de peur qu'ils ne profanent une telle occasion sacrée en devenant affectés par la consommation de vin. Et ainsi, ils allaient le mélanger avec deux fois plus d'eau et prendre cette première coupe qui s'appelle la coupe de la bénédiction. En fait, cette première coupe a été accompagnée d'une bénédiction. Nous ne devrions probablement pas l'appeler la coupe de la bénédiction. Cela est réservé à la troisième coupe. Mais c'était une coupe pour laquelle il y avait une bénédiction spéciale. En d'autres termes, cela symbolisait la bénédiction de Dieu. Vous pouvez regarder Luc 22, 14 à 17, et vous les trouverez là en commençant par cette première coupe, symbolisant la bénédiction de Dieu. Et puis, à la suite de cette première coupe, l'événement suivant. Et c'est une chose très importante dans le repas de la Pâque, était le lavage de leurs mains. C'était une purification cérémonielle, et c'était emblématique du fait que, avant de pouvoir réellement participer au repas, ils devaient reconnaître le besoin de sainteté personnelle, de nettoyage personnel. Après tout, ils célébraient le salut de Dieu, la délivrance de Dieu pour eux. Et en célébrant le salut de Dieu, ils voulaient être sûrs qu'il n'y avait rien en eux d'impur, car comment pouvaient-ils célébrer le Dieu qui les avait sauvés en entretenant le péché? Il y avait donc une période de purification, une période de lavage cérémoniel des mains. Maintenant, très probablement, c'était à ce moment-là, alors qu'ils se lavaient les mains et qu'il y avait un petit intermède dans la fête, que la conversation des disciples se tournait vers un thème très familier. Dans Luc chapitre 22 et verset 24, il est dit qu'il y avait un argument parmi eux. Lequel d'entre eux devait être le plus grand? Et nous y revenons de nouveau. Ils ont commencé à se disputer au beau milieu de cet événement pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. C'est une chose incroyable. Ils se lavaient cérémonieusement les mains en signe de purification de leur âme intérieure, et pendant qu'ils faisaient le symbole extérieur, leur âme était remplie d'orgueil, d'égoïsme, d'ambition et la recherche de leur propre gloire. Il n'y avait absolument aucun lien entre ce qu'ils faisaient à l'extérieur, qui était censé représenter ce qui se passait à l'intérieur et ce qui se passait réellement à l'intérieur. Ce n'est pas différent de beaucoup de personnes qui viennent à la table du Seigneur faisant semblant de louer le Seigneur, de participer à son repas, tout en divertissant le péché dans leur propre vie. Et ainsi, ils ont ignoré la réalité de l'intention de cette purification et ont continué à cultiver leur propre fierté pendant l'acte même de symboliser leur purification intérieure. Maintenant, je crois que c'était particulièrement cette époque, lorsqu'ils se lavaient les mains, qu'il était très probable qu'ils en soient venus à reconnaître la nécessité de se laver les pieds. Vous voyez, il est dit dans Jean 13, pendant le souper. Donc, ils avaient déjà pris le repas dans une certaine mesure, peut-être juste après cette première coupe. Et le souper avait officiellement commencé, le repas de la Pâque. Et peut-être qu'en se lavant les mains, tout le monde était conscient que les pieds étaient sales. Et si le lavage des mains était symbolique, le lavage des pieds était tout simplement pratique, surtout si vous vous étaliez sur un lit et que votre tête était à quelques centimètres des pieds de quelqu'un d'autre. Et à cette époque, les pieds étaient recouverts de sandales, et les sandales n'empêchaient pas la saleté, et elles étaient donc boueuses ou poussiéreuses. C'était une coutume courante que les pieds soient lavés chaque fois que vous entriez dans une maison. Aucun serviteur ne l'avait fait, et aucun disciple ne s'abaissait pour le faire, parce qu'ils discutaient de qui était le plus grand, et aucun ne voulait assumer le rôle de serviteur et se disqualifier de la vraie grandeur. Donc, dans leur fierté, ils ne l'ont pas fait. Et je crois que c'était à ce moment-là, mais cela aurait pu être à n'importe quel moment de la fête, que Jésus, Jean 13 décrit tout, se leva et prit une serviette de son vêtement extérieur. Il mit la serviette autour de sa taille et procéda au lavement des pieds des disciples pour leur donner une leçon profonde sur l'humilité, une leçon profonde sur l'amour condescendant, une leçon profonde sur la satisfaction des besoins de quelqu'un d'autre et le rôle d'esclave. Et il a dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Et il leur enseigna la leçon d'humilité. Maintenant, la leçon d'humilité était un grand reproche à leur fierté. Mais Jésus leur a aussi donné une réprimande verbale. Dans Luc 22, 25 à 27, il leur a littéralement reproché leur fierté. Donc, pendant le repas, il y a deux événements. La première coupe et la purification. Et déjà ces hommes ont été intimidés. Ils ont été confrontés. Ils ont été réprimandés. Ils ont été exhortés à propos de leur fierté, de leur laideur, de leur égocentrisme et de leur ambition personnelle, etc. Donc, ils sont assez bien secoués au moment où ils se lancent dans cette aventure. Et il est important que vous gardiez cela en tête. Quand Jésus réprouve quelqu'un, je crois qu'il les a vraiment réprimandés. Ainsi, ils ont été bien sermonnés et démasqués comme égoïstes, etc. Et cela les prépare à la réaction que nous voyons un peu plus tard. Donc Jean 13 se glisse sans doute au moment de la purification. Cela a mené la troisième partie de la fête de la Pâque qui était les herbes amères. Et les herbes amères, alors symboliques de l'amertume de l'esclavage en Égypte, étaient apportées avec du pain sans levain et la charosette, qui était la sauce qu'ils fabriquaient à la Pâque. Et le pain sans levain et les herbes étaient trempés dans cette sauce. Et puis vint la quatrième partie de la Pâque, qui était la deuxième coupe. Encore une fois, du vin rouge était mélangé à de l'eau. Et lorsque le père ou le chef de table, en l'occurrence le Seigneur lui-même, prenait cette coupe, il y instruisit le groupe sur la signification du repas de la Pâque. Et c'est pourquoi c'est la révélation. Donc, une coupe, une purification, des herbes amères, du pain sans levain trempé, une deuxième coupe. Après cela, il y eut des chants, et ce qui était chanté était le Hallel, où nous obtenons le mot « Alléluia », qui signifie « louange ». Le Hallel sont les psaumes 113 à 118, et à ce moment, il chanterait les psaumes 113 et 114. C'était l'étape suivante. Maintenant, après le chant des deux premiers psaumes du Hallel, l'agneau était servi. Et de ce fait, la majeure partie du repas commence. Les herbes amères et le pain sans levain trempé, avant cela, était comme un apéritif. Et maintenant vient le repas principal. Et le père se laverait à nouveau les mains, prendrait des morceaux de pain, les bénirait, les briserait et les mangerait avec l'agneau. Et alors qu'il commence à manger, tout le monde commence à manger l'agneau. Et c'est ainsi que nous sommes dans la scène du verset 21. Alors qu'ils mangeaient, ils en étaient au moins aux herbes amères à ce stade, ou peut-être à la deuxième coupe. Ils prenaient le repas dans une certaine mesure. Et à mesure qu'ils avancent dans le repas, nous voyons la mise en place de l'heure, du partage du repas, avec ce que j'appelle le choc des douze. Regardez à nouveau le verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ce n'est pas vraiment le mot « trahir ». Les traducteurs l'ont traduit comme cela, parce que Judas était un traître. Le mot signifie simplement « l'un de vous me livrera ». Marc ajoute la déclaration dans Marc 14, 18, dans un compte-rendu parallèle. « L'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. » Maintenant, ceci est une chose choquante. « L'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. » et bien sûr dans cette partie du monde, à cette époque de l'histoire, lorsque vous preniez un repas avec une personne, vous vous identifiez comme un ami, et l'idée de manger un repas avec quelqu'un et de la remettre à des bourreaux était tout simplement impensable, car un repas était un symbole d'amitié, et vous pouvez vous rappeler dans le psaume 55 les paroles de David, alors qu'il envisageait une telle trahison. Il a dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » En d'autres termes, il dit « La partie incroyable de cette trahison, c'est que tu étais mon ami, pas mon ennemi. C'est impensable pour un ami de le faire. » Et pourtant, Jésus a dit que l'un de celui qui mange avec moi le fera. Et Jésus a toujours dit la vérité. Alors ils savaient que l'un d'entre eux le ferait. Et ils ont été secoués. Le verset 22 dit qu'ils étaient extrêmement tristes. C'est un moyen fort d'indiquer leur tristesse, leur chagrin. Il y a peut-être eu des larmes. Il se peut qu'il y ait eu beaucoup de douleur à l'intérieur, alors qu'ils l'ont entendu dire « L'un de vous qui mange à cette table avec moi me livrera. » Ils étaient tristes. Jean 13, 22, en parallèle dit « Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Ils ne savaient pas de qui ils parlaient. Ils ne savaient pas, et n'ont pas dit « Ah oui, c'est Judas. » Non, ils n'ont pas dit cela. Judas était un hypocrite. Il était excellent pour jouer la mascarade. En fait, dans Luc 22, 23, encore un récit parallèle, il est dit « Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. » Et l'un dirait à l'autre « Qui est-ce ? » Et il répondrait « Je ne sais pas. » Et la rumeur se déplaçait autour de cette table, en forme de U, sur laquelle ils étaient allongés pendant le repas, et ils se disaient « Qui est-ce ? » Vous voyez, Judas était très habile, grâce à son hypocrisie. Le fait qu'ils l'avaient choisi en tant que trésorier, ils n'avaient aucun doute de son intégrité. Ils lui ont fait confiance avec leurs ressources, qui étaient maigres, au mieux. Et Jésus n'avait rien fait pour l'exposer ouvertement. En fait, Jésus a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rapprocher Judas de lui. Ici, il était assis à sa gauche, à la table. Wedersheim, l'historien et érudit juif, a dit que c'était le lieu du grand honneur. C'est à lui que Jésus a trempé la mouillette et le lui a donné. Encore une fois, un symbole, le représentant en tant qu'invité d'honneur. Jésus a fait tout ce qu'il pouvait pour montrer autre chose que le fait qu'il dédaignait, méprisait et détestait Judas, et ne faisait rien pour le révéler en tant que traître. Donc, ils n'ont pas identifié Judas comme le traître. Vous remarquerez plutôt le verset 22. Chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Chacun d'entre eux. Maintenant, pourquoi serait-ce si rapide à imaginer qu'ils pourraient être eux-mêmes le traître ? C'est très facile à comprendre, et c'est ce que j'ai mis en place, il y a un instant. Le fait qu'ils venaient d'être réprimandés pour la laideur de leur fierté, pour leur péché, leur ambition, leur volonté personnelle et leur conception de soi, ils ont été secoués. Je veux dire, ils avaient la queue entre les jambes, ils avaient honte de la réprimande de Jésus. Et puis, ils ont été doublement choqués par le lavage des pieds. Vous vous souvenez ? Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et alors Jésus a réprimandé Pierre et lui a dit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Donc ils étaient réprimandés et avaient honte. Maintenant, dans cette condition où leur péché est exposé, ils ne peuvent pas le cacher. Ils sont très conscients de leur faiblesse. Ils ne se font même pas confiance à cet égard. Et chacun d'entre eux commence à dire « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Maintenant, ils étaient très sensibilisés à leur capacité de faire le mal. Et donc, ils posent la question en pensant à eux-mêmes. Il y a quelque chose d'honnête dans cela. Il y a une certaine intégrité à cela. Ils savaient qu'au fond d'eux-mêmes, il y avait un principe de péché qui pouvaient être si laids, qu'ils pouvaient même les amener à trahir celui qu'ils aimaient. William Hendricksen appelle cela une méfiance de soi salutaire. Et donc ils ont dit, « Sûrement pas moi, sûrement pas moi. » Et au verset 23, Jésus répondit et dit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat. » C'est le fait de tremper à nouveau le pain sans levain, ou les herbes amères, dans la charosette. C'est celui qui me livrera. Ils n'avaient ni couteau ni fourchette. Ils mangèrent avec la main, trempant le pain, trempant les herbes, trempant peut-être l'agneau. Il dit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat. » Maintenant, qui a fait cela ? Ils l'ont tous fait, tous ont mangé. tous sont trempés. Et ce qu'il dit, c'est que l'un d'entre vous qui mange, qui est en train de tremper la mouillette, c'est l'un d'entre vous. Et dans Jean 13, 18, il cite le psaume 41, 9, et il dit quelque chose qui montre l'incongruité. Il dit au verset 18, « Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Psaume 41, 9. Et bien sûr, cela parle d'Achipotel. 2 Samuel, chapitre 16, parle d'Achipotel, qui était l'ami familier de David et qui l'a trahi. Et Achipotel est une image de Judas, l'ultime, l'architraître, qui, si vous voulez, a trahi Jésus-Christ. Le malheureux qui était assis à la table, trempa la mouillette, mangea avec le Christ, se retourna et le trahit. Luc 22-21, parallèlement à cela, écrit. Jésus a dit, « Cependant, voici la main de celui qui me livre, est avec moi à cette table. » D'abord, il dit, « L'un d'entre vous. » Ensuite, il dit, « L'un d'entre vous dont la main est sur la table, et l'un d'entre vous qui trempe la mouillette. » Et c'est donc un choc indéniable que l'un d'entre eux puisse faire cela. Mais le verset 24 le met en équilibre. Il n'est pas victime de la trahison d'un imbécile. Il n'est pas victime d'un traître. Ils doivent le savoir, et nous aussi. Et ainsi, au verset 24, il dit, s'appelant par son nom le plus familier pour lui-même, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. » En d'autres termes, ne pensez pas que je sois une victime. Ne pensez pas que c'est un plan qui a mal tourné. Ne pensez pas que c'est la façon dont cela est censé être. C'est exactement ce que Dieu avait écrit dans l'histoire prophétique. Et personne ne fait rien qui ne soit un accomplissement direct et immédiat du plan éternel de Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'Apocalypse dit « Il est l'agneau tué avant la fondation du monde ». C'est pourquoi dans Actes 2, 23, alors que Pierre prêche à la Pentecôte, il dit « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » En d'autres termes, c'est le plan divin. Donc Judas était un traître. Judas était un traître par son propre choix. Judas était un traître qui rejetait la grâce, rejetait l'offre de salut et rejetait la grâce que Christ lui présentait à un niveau personnel. Judas rejetait tout cela. Il a fait ses propres choix et d'une manière ou d'une autre, dans la merveilleuse souveraineté mystérieuse de Dieu, il était parfaitement au cœur de la trahison de Jésus-Christ pour accomplir des objectifs sacrés. Ainsi, un homme impie, grâce à la main d'un Dieu souverain, accomplit une fin sainte. Mais cela ne fait pas de lui un homme bon. Lorsque j'étais en dernière année au séminaire, j'ai décidé de faire ma thèse sur Judas. Et j'ai été étonné de lire dans beaucoup de livres des personnes qui voulaient que nous prenions Judas comme un héros, qui devrait être exalté, parce que c'était Judas qui avait agi, forçant Jésus à la croix pour accomplir la prophétie. Et certains ont même imaginé que Judas savait ce qu'il faisait, qu'il avait prévu la crucifixion du Christ afin que le monde puisse être racheté. Ne croyez pas cela. Si vous regardez le verset 24, vous verrez que Jésus dit « Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Cet homme est un homme maudit. » Jésus a dit qu'il était un démon. La Bible dit qu'il était un voleur. Il aimait l'argent. Il a vendu Jésus pour de l'argent. C'est tout ce qu'il voulait. Il n'avait aucun désir d'apporter le royaume. Il n'avait aucun désir pour le salut du monde. Il voulait de l'argent. C'était tout ce qui l'intéressait. Et oui, l'Ancien Testament disait que Jésus mourrait sur une croix. Il est écrit à son sujet que toute la crucifixion est décrite avec tous les détails dans le psaume 22. Ésaïe 53 le décrit à nouveau. Il était écrit qu'il mourrait sur la croix. Il était écrit qu'il mourrait pour les péchés du monde, qu'il serait un sacrifice. Mais même si c'était dans le plan de Dieu, l'homme qui l'a fait, qui l'a livré, est un homme maudit et damné. Et Jésus dit de lui quelque chose de si terrifiant qu'il est difficile d'exprimer son intention. À la fin du verset 24, « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Autrement dit, « Mieux vaut ne jamais être né que de subir ce que cet homme endurera. » Ça aurait été mieux si l'homme n'avait jamais existé que d'exister pour toujours dans l'enfer éternel. Et bien sûr, nous réalisons que les degrés de punition dans l'enfer éternel sont liés au rejet. En d'autres termes, plus vous rejetez, plus vous comprenez et refusez la vérité, plus la punition en enfer sera grande. Par conséquent, la damnation la plus sévère en enfer vient à Judas, qui en réalité, et aux paroles du chapitre 10 d'Hébreux, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, qui a rejeté Jésus-Christ pendant 3 années. Et quand le Seigneur dit maudire cet homme, il le signifie de la manière la plus profonde et la plus éternelle. Et quand il dit que cela aurait été mieux qu'il ne soit jamais né, c'est exactement ce qu'il veut dire. Il vaut mieux ne jamais avoir existé que de passer l'éternité au plus profond de l'enfer. Ainsi, Judas a fait ses propres choix, a été la source de sa propre damnation. Mais cela s'inscrit parfaitement dans le plan souverain de Dieu. Et c'est dire que Dieu contrôle non seulement le bien des hommes, non seulement les justes du monde, mais leur mal et les méchants parmi eux, pour accomplir ses propres fins. Il ne dit pas qui c'est au verset 24. Il ne fait que prononcer la damnation sur celui qui est coupable. Et je crois en un sens qu'il s'agit d'un rappel gracieux à Judas, et même d'un appel à la repentance. Ainsi les 12 sont sous le choc, après avoir entendu ce mot incroyable, que l'un d'entre eux allait livrer Jésus aux dirigeants pour être tué. Cela nous amène à la dernière pensée, signifiant le traître. Le verset 25. Et ceci est spécifique. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et il devait le dire. S'il ne disait rien, il aurait été démasqué. Il devait jouer le jeu. Tout le monde le disait alors, il fallait le dire. Alors il se considère comme faisant partie du groupe. Et le groupe dit « Sûrement pas moi ». Alors il retentit « Sûrement pas moi », masquant son hypocrisie, comme s'il pouvait cacher quelque chose. Appelant Jésus « Oh, Didascalos », le maître, le rabbin, l'enseignant, avec lequel il n'était pas plus engagé que tout autre élément de Jésus, sincèrement. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent et de la gloire. Mais il a eu une réponse directe. À la fin du verset 25, Jésus lui répondit « Tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est sorti de ta propre bouche. Tu l'as dit. » À ce moment précis, Jean 13, versets 23 à 26, nous dit que Simon-Pierre s'est penché vers Jean, qui était du côté droit de Jésus, Judas à gauche. Et Simon a dit à Jean « Demande au Seigneur qui c'est. » Alors, il n'a pas entendu cette petite discussion entre Judas et Jésus. Apparemment, Judas était en train de se déguiser pour l'amour de Jésus, alors que tout le bruit se passait. Et évidemment, Pierre et Jean ne l'ont pas entendu. Alors Pierre dit « Jean, demande à Jésus de qui il s'agit. » Et Jean 13, 23, 26 dit « Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Jean savait, le reste ne savait pas. Dans ce même passage, Jean 13 dit qu'il ne savait pas, mais Jean le savait, celui à qui il a donné le morceau. Donc, il a dit à Judas, il a identifié à Jean qui était le traître, Jean, son cher disciple bien-aimé et intime. Et alors, il est dit dans Jean 13, 27, une chose très effrayante est arrivée dans la vie de Judas. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Une chose effrayante. Le diable lui-même venait en personne résider à l'intérieur de Judas. C'était l'enfer à ce stade. Il était un agent suprême pour l'ange déchu, Lucifer, afin d'accomplir son acte diabolique contre Jésus-Christ. Il était une victime, pas moins en un sens que n'importe quel homme qui rejette Christ, mais plus que tout homme dans le sens où il était le criminel de tous les temps, habité par le diable lui-même, infernal, comme c'est possible dans le domaine du naturel et du surnaturel. Et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Et il est dit que les disciples ne savaient pas pourquoi il l'avait renvoyé. Certains pensaient qu'il allait acheter de la nourriture. Certains pensaient qu'il allait donner de l'argent aux pauvres. Alors, ils ne le savaient toujours pas. Judas savait. Jésus savait. Jean savait. Le reste ne savait pas. Mais Jésus s'est débarrassé de lui avant même d'avoir mangé le repas, car il ne devait pas avoir sa part dans la table du Seigneur. Donc, il a été congédié. Quelle scène de préparation, alors que Jésus fête la Pâque finale. Après cela, bien sûr, le verset 26 dit « Pendant qu'ils mangeaient, ils retournèrent au repas, à la Pâque. Maintenant, pourquoi cette dernière Pâque ? Écoutez très attentivement ce que je dis. C'est essentiel dans votre compréhension des Écritures. Ce fut une période très importante de l'histoire. La Pâque était la plus ancienne institution juive. plus ancienne que toute autre institution juive, à l'exception du sabbat lui-même. Pendant 1500 ans, ils avaient célébré la Pâque, avant même que le sacerdoce d'Aaron ne soit institué, avant même tout le rituel lévitique et le don de la loi mosaïque. La Pâque était très ancienne, et elle a été ordonnée par Dieu d'être tenue chaque année, et chaque juif pieux la fait chaque année. Mais maintenant, écoutez, cette Pâque, après plus de 1500 ans de Pâque, était la dernière Pâque sanctionnée et divinement autorisée. Toute Pâque célébrée après celle-ci n'était plus autorisée par Dieu. C'est un vestige d'une économie révolue, d'une dispense éteinte, d'une alliance qui n'est plus en vogue. C'est rudimentaire. Cela ne sert à rien. Jésus a célébré la Pâque comme moyen de la mener à bien. La cloche sonnait dans la chambre haute pour l'ancienne économie. Christ a mis fin aux longues années de la Pâque et a mis en place une nouvelle fête commémorative qu'il commence à instituer, au verset 26. Et cette nouvelle fête, c'est la fête non pas de l'ancienne économie, mais de la nouvelle économie. Ce n'est plus l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance. Plus l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, ne cherchant plus un agneau en Égypte, mais un agneau de Dieu sur la colline du Calvaire. Ainsi Jésus met fin à l'Ancien, avant de commencer le Nouveau. Et après avoir tiré le rideau sur la Pâque de l'ancienne économie, il institue la fête de la nouvelle économie. Et nous en venons au verset 26. Je veux que vous ne voyiez que ces trois choses très rapidement. La directive, la doctrine et la durée. Ce nouveau festin, parce que nous l'avons étudié tant de fois et que nous l'avons étudié dans Corinthiens, nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, juste pour revoir la scène. Quelles sont les directives qu'il donne? Et alors qu'il mangeait, le verset 21 dit « Et comme il mangeait, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils ont eu la première coupe. Ils ont rompu le pain, mangé les herbes amères. Ils ont pris la deuxième coupe et chanté le Hallel. Ils avaient déjà été interrompus une fois avec le lavage des pieds et les leçons qui en découlaient. Ils ont été interrompus une deuxième fois avec le renvoi de Judas. Et maintenant, alors qu'ils commencent juste à manger le repas complet de l'agneau, le chef du festin, le Père ou, en l'occurrence, le Christ, avait coutume de prendre le pain, de le briser, de le manger avec l'agneau et de commencer la fête. C'est peut-être à ce moment-là que cela se produit. Nous ne le savons pas. C'était peut-être pendant la fête quand il mangeait déjà l'agneau. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Mais à un certain moment, dans la consommation de la Pâque, Jésus a pris du pain et a rendu grâce. C'est ce que le mot signifie. Il a remercié Dieu pour le pain, tout ce qui est reçu avec action de grâce, dit 2 Timothée ou 1 Timothée 4:4. Et ainsi, il remercie Dieu pour la provision que Dieu a donnée. Non seulement pour la provision que Dieu a donnée dans la nourriture, mais la disposition que Dieu a donnée dans sa puissance de délivrance symbolisée dans cette fête merveilleuse. Et puis, il a rompu le pain, et il l'a brisé pour la simple raison que c'était un gros morceau plat et qu'il devait être cassé pour être distribué. Et ensuite, il l'a donné aux disciples et a dit « Prenez et mangez ». Et puis, au verset 27, il a pris la coupe, où en réalité le texte dit ici « une coupe ». Marc utilise une coupe. Matthieu utilise une coupe. Luc dit la coupe, et Paul dans 1 Corinthiens 11 dit la coupe. Et nous concluons que c'était une coupe, mais qui est devenue la coupe. Et il a encore rendu grâce, eucharisteo. Nous avons l'eucharistie parce que cela signifie remercier ou bénir. Et ainsi, il a rendu grâce pour le pain. Il a rendu grâce pour la coupe, et il la leur a donnée, et a dit, buvez-en tous. Buvez-en tous, maintenant. Ce sont les directives. Maintenant, franchement, entendre ces choses en ce moment à la fête ne serait pas trop surprenant. L'acte de rompre le pain aurait pu se produire au tout début du repas de l'agneau lui-même, de sorte que cela n'aurait pas été hors de l'ordinaire. Mais cela n'aurait pas été différent du tout d'une Pâque normale. Et la coupe du verset 27 était probablement la troisième coupe appelée la coupe de bénédiction. En fait, Paul, dans 1 Corinthiens 10, 16, dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas ?» Et ainsi de suite. La coupe de bénédiction, qui était le terme de la troisième coupe du repas de la Pâque, est aussi appelée la coupe de la communion par Paul, dans ce 16e verset de 1 Corinthiens 10, qui nous dit que c'est probablement la même coupe, très probablement. C'est la troisième coupe, appelée la coupe de bénédiction, que le Seigneur a levée. À propos, quelques versets plus loin dans le chapitre 10 au verset 21 de 1 Corinthiens, Paul change le nom et l'appelle la coupe du Seigneur. Ainsi, la coupe de bénédiction prise lors de la Pâque devient la coupe du Seigneur sous la nouvelle alliance. Donc, rien n'est vraiment très différent. Il rompt le pain de toute façon. Il le rompt et le fait circuler. Il n'y a pas de véritable symbolisme dans la rupture. Certaines personnes pensent que cela symbolise le corps brisé. Mais le corps de Christ n'était pas brisé. Jean 19, 36. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Il était brisé parce que c'était la seule façon de le passer. C'était fortuit, franchement. Le symbolisme n'est pas dans la rupture. Et puis la coupe a été prise et également bénie. Une prière de remerciement a été donnée, et il était partagé. Ensuite, il a dit « Prenez et mangez », et il a dit « Buvez-en tous ». Maintenant, ce sont des directives simples. Au fait, Marc nous dit que tous les 11 ont bu la coupe, ils ont tous partagé, et c'est l'idée que nous voulons souligner, à savoir que tous ceux qui viennent au repas du Seigneur sont des participants. Pendant de nombreuses années, mais cela a pu changer dans certains endroits. Dans l'Église catholique, le prêtre était le seul à boire la coupe. Il ne laissait jamais les personnes faire cela. Cela est étranger à ce qu'est l'intention de l'Écriture. Et nous participons tous au sang du Christ et au corps du Christ dans la mort et la résurrection du Christ, et participons tous à son repas. Et ainsi, nous le trouvons en train de dire « Buvez-en tous, prenez-en tous et mangez-en tous ». Et ils ont fait cela. Maintenant, qu'en est-il de la doctrine? La directive est simple. Et vraiment, si c'est tout ce qu'il a dit, nous pensons que nous étions encore dans la Pâque, parce qu'il n'y a rien de différent. Mais la doctrine vient à la fin du verset 26 quand il a dit « Ceci est mon corps ». Maintenant, c'était quelque chose de nouveau. Le pain sans levain avait toujours été le symbole de la sortie d'Égypte et de la préparation d'un nouveau pain sans levain, pour symboliser le fait qu'ils n'emportaient rien avec eux dans leur ancienne vie en Égypte. Vous savez, le levain était pris sur un pain. Avant la cuisson d'un pain, le morceau était enlevé et il était autorisé à fermenter, et il est devenu le point de départ du pain suivant. Cela symbolisait les influences, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et le pain sans levain était une façon de dire « Nous commençons de nouveau ». Il n'y a plus d'influence de l'ancienne vie. C'était donc un symbole de la vie nouvelle. C'était symbolique de la séparation d'avec l'Égypte, de se séparer de la mondanité. Mais maintenant, c'est quelque chose de différent. Maintenant, le pain sans levain ne parle plus de ce qui est influencé par le mal du monde. Le pain sans levain signifie maintenant « mon corps », dit-il, et il transforme la Pâque. Maintenant, cela prend beaucoup d'autorité. Vous trompez quelque chose que Dieu a ordonné, mais Jésus est Dieu dans la chair humaine, et il peut réécrire le script. Et ayant mis fin à la vieille économie, il initie maintenant la nouvelle et dit « je veux que vous preniez et mangez ce pain en tant que symbole de mon corps ». Maintenant, certaines personnes pensent que c'est vraiment son corps. L'Église catholique enseigne la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain devient littéralement, physiquement, le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que cela veut dire. C'était la réflexion ridicule des pharisiens dans Jean 6 qui est risible. Ils ont même fait une remarque stupide à propos de l'effet. « Si on mange ton corps, comment va-t-il y avoir suffisamment de toi pour en donner à tout le monde ?» Ce genre de réflexion. C'est impliqué dans Jean 6. L'intention n'est donc pas de dire cela, pas plus que de dire « Jésus est la vigne ». Alors cela signifie qu'il grandit dans un champ et qu'il a des branches. Ou s'il dit « Je suis de l'eau », cela ne veut pas dire qu'il est liquide. Ce sont des images. Ceci est emblématique de mon corps. Ceci représente mon corps. Et Luc 22, 19 ajoute « Qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 24. Ainsi, il prend le pain qui représente son corps et il devient un symbole et une image. Maintenant, Christ dit « Je laisse mon corps mourir pour vous ». C'est ce qu'il dit. Mon corps comme ce pain est brisé et consommé. Mon corps sera donné. Je veux que vous fassiez ceci en mémoire de moi. Puis, au verset 28, il dit à propos de la coupe « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Ceci est le sang de l'Alliance. » Matthieu et Marc disent juste l'Alliance. Luc aussi et Paul dit la nouvelle alliance. Et d'une certaine manière, le mot « nouvelle » a été autorisé par Matthieu. Mais ce qu'il dit, c'est « Ceci est mon sang de l'alliance. C'est la nouvelle alliance, écrite dans son sang. » Si vous revenez à Exode 24 et au verset 8, vous verrez que c'est essentiellement une citation d'Exode 24, 8. Et ce que Jésus dit, c'est que Dieu, quand il a fait une alliance avec l'homme, a exigé quoi? Du sang. Quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, il y avait du sang versé par les animaux. Quand Dieu a fait une alliance avec Moïse, il y a eu du sang versé. Lorsque Dieu fit une alliance avec Noé, il y eut un sacrifice posé sur un autel. Dieu a exigé que le sang fasse des alliances avec les hommes. Lorsque Dieu s'est réconcilié avec lui-même, le prix était le sang, afin que les hommes puissent savoir qu'une relation avec Dieu allait coûter le sang d'un sacrifice. Et tout cela indiquait que le Christ serait ce sacrifice. Et quand le prêtre aurait le sang jusqu'aux genoux de milliers d'agneaux, c'était une manière de leur rappeler le prix de la réconciliation de Dieu avec l'homme, que cela coûtait des effusions de sang et des sacrifices. C'est pourquoi Hébreux 9, 22 dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Une alliance avec Dieu exigeait toujours non seulement la mort, non seulement le fait d'assommer l'animal pour qu'il meure, mais aussi l'effusion de sang, parce que la vie de la chair est dans le sang, nous dit-on dans le Lévitique, et le sang coulant était une démonstration très graphique, très douloureuse, très vivante de la perte de vie humaine. Et ainsi Jésus est mort pour nous sauver de notre péché. Mais il ne suffisait pas qu'il meure, il devait mourir, mais dans sa mort, le sang coulait à travers les plaies de ses mains, de ses pieds, de la blessure à ses côtés, des marques d'épines sur sa tête. Du sang coulait partout pour démontrer que la vie sortait de lui, de manière graphique et visible, qu'il s'offrait lui-même comme un sacrifice de sang pour le péché. Et ainsi Jésus dit que lorsque vous prenez cette coupe, ce n'est plus pour vous rappeler le sang de l'agneau en Égypte, le sang qui est placé sur les montants des portes et des linteaux. Ce n'est plus pour vous rappeler tout cela. C'est pour vous rappeler désormais que mon sang a été versé. Ce mot versé est la clé de toute la compréhension du verset. C'est du sang versé. « Ceci est mon sang de l'Alliance. Le sang est versé, dit le grec. Il fallait faire couler le sang. C'est la manière graphique démontrable de voir la vie se répandre. Maintenant, évidemment, nous avons été sauvés par sa mort. Il n'y avait rien dans la chimie de son sang pour nous sauver. Nous étions sauvés par sa mort, mais il devait verser ce sang parce que Dieu avait exigé un sacrifice de sang, un sang versé, afin qu'il y ait de la vivacité et que l'on puisse voir que la vie était répandue. » Et ainsi Jésus dit que cette coupe vous rappellera mon sang versé. Remarquez, pour beaucoup, littéralement pour le bénéfice de beaucoup. Et qui sont-ils? Tous ceux qui croient, juifs et païens. Ce n'est pas seulement le sang versé comme dans l'ancienne alliance pour la nation d'Israël, mais c'est pour les juifs et les païens, un grand nombre, au-delà d'Israël, pour tous, pour le pardon des péchés. En d'autres termes, son sang a été versé pour apporter le pardon des péchés. La mort substitutive sanglante sacrificielle pour provoquer le pardon. C'est pourquoi Jésus est venu, et il a institué le mémorial la veille de sa mort. Ainsi notre Seigneur s'est dirigé vers la croix pour répandre son sang en sacrifice pour le péché. Et il a institué le pain et la coupe comme un mémorial pour tous les temps, afin que nous puissions nous souvenir de la mort sacrificielle et sanglante du Christ pour nous. L'ancienne alliance était tous ces animaux, dont aucun ne pouvait enlever le péché. Le sang du Christ seul pouvait le faire. Et ainsi, c'est la fête que nous célébrons à cette table, avec le pain et la coupe. Enfin la durée. Combien de temps faisons-nous cela? La Pâque s'est terminée cette nuit-là. Il n'y a jamais eu de Pâque autorisée depuis. Beaucoup de Juifs continuent à le faire. Ce peut être une belle coutume, mais c'est un festin mortel. Cela n'a aucun but. Cela ignore la vraie fête de la rédemption. Donc, si cela se termine, combien de temps le faisons-nous? Le verset 29 dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. » Ceci est juste une expression familière pour le vin, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Ce qu'il dit, c'est de continuer à le faire, jusqu'à ce que je le fasse avec vous dans le royaume. Quand Jésus viendra dans sa seconde venue et mettra en place le royaume, ce grand événement dont il parlait dans Matthieu 24 et 25 allait se produire. Il leur disait qu'il allait mourir. Il leur disait que son sang allait être versé. C'est une chose assez tragique à entendre. Alors il injecte cette pensée. Je vais revenir, et je le ferai avec vous dans mon royaume. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Et il y a une réaffirmation au verset 29 de la promesse de son royaume. Je le ferai avec vous dans mon royaume. Et je crois que quand Jésus viendra, et que nous entrons dans son royaume, nous le ferons avec lui. Nous célébrons cela avec lui. Nous nous souviendrons de son sacrifice ensemble, et je ne suis pas sûr que nous ne ferons pas cela pendant toute l'éternité, d'une manière merveilleuse, conçue par lui, car c'est une rédemption inoubliable et glorieuse, à ne jamais oublier, mais à célébrer toujours. Donc il dit, faites ceci, en fait, jusqu'à ce que je le fasse avec vous dans le royaume de mon Père. Mais l'accent est, je vais revenir boire avec vous à nouveau. En passant, les trois évangiles déclarent que le Seigneur a dit cela. C'est une chose merveilleuse qui nous assure à tous qu'il viendra pour établir son glorieux royaume. Et puis, au verset 30, on nous dit qu'ils ont chanté un cantique. Littéralement, le grec dit qu'ils chantaient. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils avaient déjà chanté les psaumes 113 et 114. Ils ont probablement chanté le psaume 115 et peut-être le 116. Ensuite, il y avait la quatrième coupe, et ensuite ils auraient chanté les psaumes 117, 118, et seraient allés au mont des Oliviers, et ainsi la dernière Pâque, et ainsi l'institution du repas du Seigneur. Imaginez que vous êtes là-bas ce soir-là, alors que nous participons ensemble. Prions. Que tu sois béni, Seigneur Jésus, devant ta croix. Nous nous agenouillons et voyons la laideur de notre péché, notre iniquité qui t'a fait devenir une malédiction, le mal qui est en nous et qui t'a apporté la colère divine. Ô Seigneur, montre-nous l'énormité de notre culpabilité par la couronne d'épines, les mains et les pieds percés, le corps meurtri, les cris mourants, le sang, ton sang, le sang de Dieu incarné. Combien notre mal doit être infini. Quelle sévérité, notre culpabilité, a exigé un tel prix. Le péché est, en effet, notre mal, né dans notre conception même, vivant à travers toute notre vie, fort dans notre caractère, si dominant dans nos facultés. Il nous traîne comme une ombre, se mêlant à chaque pensée, motif et action. C'est comme une chaîne qui nous tient captifs. Et demandons, ô Dieu, pourquoi devrais-tu être aimable avec nous? Et pourtant nous te bénissons pour la compassion qui nous pousse, en tant que pécheurs, le cœur qui se hâte à notre secours, l'amour qui supporte notre punition, la miséricorde qui a porté nos rayures. Nous confessons notre péché. Ô Seigneur, nous demandons que nous puissions marcher humblement, tendre de conscience, pour que nous puissions aussi marcher glorieusement, comme héritiers du salut.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.